soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h17, le président délégué du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. D'abord, êtes-vous soulagé, tout simplement, j'ai envie de vous poser la question, de cette non-annonce de reconfinement de la part du gouvernement, décidée d'ailleurs visiblement par le président Macron, un peu seul contre tous?
Pas contre tous, hein, parce que c'est ce que nous souhaitions, hein, pour dire les choses. Soulagé, oui, mais bien conscient que ça nous engage, que cette situation est fragile et que si on veut déboucher positivement, mais il va falloir que tout le monde fasse à ses responsabilités.
Oui. Est-ce que vous pensez que c'est reculer pour mieux sauter, pour dire les choses un peu clairement, qu'on nous offre un sursis de quelques jours, mais que le gouvernement et le président sont déjà décidés à prendre la décision de reconfiner à l'aune du début des vacances scolaires?
Écoutez, déjà,
c'est beaucoup ce qui se dit, voilà. C'est pour ça que ça me permet de relayer cette parole-là.
Le MEDEF n'a aucune compétence sur le plan médical et scientifique. Moi, je pense que si le président de la République a pris cette option, c'est qu'il a quand même quelques assurances, en tout cas une conviction que ça peut marcher. Et les derniers chiffres sont ambigus, d'ailleurs.
C'est vrai, il y a une hausse des contaminations au cas par cas, et puis on voit que dans les eaux usées, c'est plutôt un indicateur qui est en baisse, ce qui est difficile à lire, j'imagine, pour les experts et pour les membres du gouvernement, et évidemment le président. Un mot d'actualité aussi, quel commentaire vous inspire le coup de force des restaurateurs qui ont décidé, pour certains, d'ouvrir leurs établissements pour exprimer leur ras-le-bol? On les comprend évidemment, mais est-ce qu'on peut aller à l'encontre des règles et à l'encontre de la loi, au mépris des préconisations sanitaires?
Alors d'abord, sur le tard, mais quand même, les dispositifs de soutien, singulièrement le Fonds de solidarité renforcé, permettent de couvrir bon nombre de situations, y compris chez les restaurateurs. Ce qu'expriment ceux qui se mettent en infraction, en définitive, c'est leur désespoir et leur volonté farouche de travailler. On ne peut pas les en blâmer. Mais je reviens à ce que je vous répondais tout à l'heure. Je crois qu'on se doit d'être civique, d'être exemplaire dans la situation que l'on vit. Alors il y a probablement encore quelques améliorations à apporter à l'hôtellerie et à la restauration pour des entreprises d'une certaine taille qui financièrement sont mal couvertes.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parenthèse, Patrick Martin, sur les aides. Il y a quelques jours, vous prédisiez 20 à 25 000 dépôts de bilan supplémentaires cette année. Une année normale, c'est à peu près 50 000, je crois. Donc 20 à 25 000 supplémentaires, on commence à être sur des volumes qui sont évidemment très très importants. Des petites entreprises, disiez-vous, surtout. Et ça, malgré des mesures de soutien énormes en France, à l'économie, chômage partiel, charges sociales, 10 000 euros pour les entreprises, ou 20 à 30% du chiffre d'affaires. Ça fait beaucoup d'argent quand même pour ces entreprises. Comment se fait-il qu'autant font malgré tout faillite, ou soient menacées de faillite?
C'est évidemment un drame humain quand ça se produit. J'ai peut-être pas été suffisamment précis dans mon propos, c'est une estimation bien sûr, mais c'est 20 à 25 000 par rapport au niveau de 2020, qui, je le rappelle, était en baisse de 38,5% par rapport à 2019. Premier point. Deuxième point, et ça peut choquer, mais c'est une réalité, il est dans l'ordre des choses qu'un certain nombre d'entreprises déposent le bilan. Pourquoi? Parce qu'elles sont mal gérées, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds propres. Évidemment, mon propos n'est pas de me réjouir de cette probabilité de défaillance.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas non plus, s'imaginer qu'on sera alors dans un record historique.
Mmh. Oui, ça veut dire que c'est moins de faillites qu'une année normale.
Oui, en fait, singulièrement, le dispositif de prêt garanti par l'État va lisser sur plusieurs années les échéances financières des entreprises, et il n'est pas exclu qu'en 2022, 2023, 2024, d'autres entreprises soient amenées à déposer le bilan. Et je crois que c'est tout le débat qu'on a actuellement avec le gouvernement, de manière assez constructive, de voir comment on peut, par des prêts participatifs, par des apports en fonds propres, au cas par cas, je crois qu'il ne faut pas créer de faux espoirs, par des abandons de créances, donc en fait des subventions, endiguer cette inflation de dépôt de bilan qui, quand même, affaiblirait l'économie française.
En parlant de créances, Patrick Martin, le taux de défaut sur les PGE, les prêts garantis par l'État, vous l'estimez à combien, vous?
Écoutez, vous connaissez les chiffres comme moi, ceux de la Banque de France, ceux de la Fédération bancaire française, ceux de BPI, ça oscille entre 5 et 10%.
Mais ça veut dire que le gouvernement va devoir prendre ses pertes, pour parler clairement, ou ça veut dire que si les entreprises ne peuvent pas rembourser, tant pis pour elles, elles feront faillite?
Alors, ça renvoie à ce que je viens de vous dire. Je pense qu'au cas par cas, il faudra étudier des abandons de créances. Ça coûterait finalement moins cher à l'État d'étaler, peut-être au-delà de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire 6 ans, les PGE, d'apporter des fonds propres, que de prendre sa paume, si vous me permettez, avec une garantie à 90% sur les PGE. Mais à nouveau, ne créons pas de faux espoirs, parce que ça serait un pouce au crime, si vous me permettez, de laisser entendre qu'il y aura des mesures d'abandon de créances sur les PGE de manière généralisée. Ça sera certainement pas le cas, il est normal qu'une dette se rembourse.
Bien, c'est important de le dire, une dette se rembourse, ça vaut pour les entreprises et j'imagine que ça vaut pour l'État aussi, puisqu'on entend ce débat, on en parle régulièrement dans Europe Soir sur le remboursement de la dette publique. Alors, pas de confinement pour l'instant, on l'a dit, et parmi les mesures annoncées par Jean Castex ce vendredi soir, il y a donc le renforcement du télétravail. Et c'est vrai, Patrick Martin, que sur ce point, il y a une forme de relâchement de la part des entreprises. Une grande étude du ministère du Travail nous apprend par exemple que 2 salariés sur 3 sont désormais 100% en présentiel. Pourquoi les entreprises ne jouent pas le jeu ?
Alors c'est plus compliqué que ça, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'on entend par les entreprises ? Est-ce que vous voulez parler des employeurs ? Non. En réalité, il y a une forme de convergence entre les salariés eux-mêmes et un certain nombre d'employeurs qui vivent très mal le télétravail. Oui. Côté employeur, parce qu'ils considèrent à tort ou à raison que ça pénalise leur exploitation. Côté salariés, parce qu'ils ne supportent plus, pour un nombre d'entre eux, d'être isolés chez eux, parfois en famille.
Mais donc, alors comment on répond à une injonction comme celle-ci quand vous me dites que c'est compliqué à mettre en place parce que les salariés rentrent dans une grande déprime, il n'y a plus d'émulation, donc on n'arrive plus à créer, à impulser cette dynamique d'entreprise. D'ailleurs, sur ce point, Patrick Martin, les syndicats sont de votre côté, sont d'accord avec vous. Donc il y a une forme d'unanimité. Mais comment on fait ?
Alors, il y a une réunion à l'instant même entre les partenaires sociaux. Pour le MEDEF, c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui, évidemment, l'anime. Je crois que c'est un appel au sens des responsabilités. Il ne faut pas durcir le protocole qui existe actuellement et qui n'autorise qu'un jour de présentiel en entreprise. Mais il faut, pendant quelques jours, quelques semaines, en espérant que le pari qu'a pris le président de la République de ne pas confiner généralement réussisse, il faut que chacun prenne sur soi.
Pardon, Patrick Martin, il a pris ce pari aussi en disant aux entreprises, par contre, la condition sine qua non, c'est de revenir à un télétravail plus important.
Absolument. Absolument.
Donc ça veut dire qu'il va falloir que les entreprises se fassent un peu violence, si je puis me parler
mais
ainsi.
On en est bien conscient, mais on est encore plus conscient du fait que la solution qui a été adoptée, je l'espère durablement, de ce confinement light, même s'il est très pénalisant pour 25 000 commerces, il faut quand même le rappeler, est un moindre mal. Oui. Donc nous, notre message auprès de nos 173 000 adhérents, 10 millions de salariés, ça va être de dire, écoutez, faites contre mauvaise fortune bon cœur et
jouez le jeu.
Et jouez le jeu.
Jouez le jeu.
Et incitez vos salariés à jouer le jeu aussi.
Non mais c'est vrai qu'il y a les salariés qui en ont marre du télétravail, mais j'ai vu aussi que dans 16% des cas, c'était quand même les salariés qui demandaient à leur employeur de passer en télétravail à 100% et que c'était les employeurs qui refusaient. Donc la part de responsabilité...
Il faut que ce soit d'un commun accord, mais c'est de la soft law, si vous voulez. Hein. Il faut que ce soit une prise de conscience de part et d'autre. J'insiste là-dessus, ce que l'on vit actuellement n'est certainement pas le pire sur le plan économique, social, mais également médical, par rapport à un confinement façon printemps dernier.
Mais c'est vrai qu'on l'avait un peu ressenti, parce que quand on regarde les embouteillages dans les grandes villes, on se dit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, que les gens vont au travail plus que de raison, en tout cas plus que c'était le cas même en novembre, en octobre dernier, et qui plus est évidemment quand on était totalement confiné au printemps dernier. La fermeture des centres commerciaux, Patrick Martin, depuis ce matin, est-ce que c'est judicieux ?
Écoutez, là aussi, moi je suis très modeste. Il y a des études épidémiologiques qui identifient en définitive les principaux centres de contamination. Et finalement, ce ne sont pas les magasins à proprement parler dans les centres commerciaux, c'est la circulation dans les galeries marchandes, j'allais dire l'agglutinement de clients, puisque de par les jauges qui sont établies et respectées dans les magasins, mais les clients patientent à l'extérieur, et c'est donc un lieu de contamination.
Ça va coûter 500 millions d'euros à l'État, ça, c'est ça ?
C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire.
Ça vous paraît cohérent ?
Écoutez, ça nous paraît relativement cohérent. Il faudra bien que les loyers soient indemnisés, que l'activité partielle soit prise en charge à 100%, que des charges soient abandonnées. Ce chiffrage paraît réaliste. Il ne vous a pas échappé qu'il était très inférieur à ce que coûterait un confinement généralisé.
Oui. Je voudrais vous entendre également sur la vaccination. C'est vrai que vous avez été, je parle du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux a été assez dur avec la campagne de vaccination au moment de son lancement en janvier dernier. Maintenant, les choses ont été rattrapées. Je voudrais votre réaction à la colère des salariés de Sanofi. Non seulement l'entreprise n'a toujours pas sorti de vaccin, on le regrette, on a reçu ici même le patron de Sanofi France il y a quelques jours, ni Pasteur d'ailleurs, et dans le même temps, le groupe annonce 346 suppressions de postes de chercheurs. Alors, évidemment, les deux ne sont pas liés, mais il y a un effet de sens quand même. Est-ce que, d'abord, l'absence de vaccin français, pour vous, c'est le symbole d'un déclassement industriel ?
Alors, je pense qu'il faut rester prudent. Il y a 20 vaccins qui feront l'objet de demandes d'homologation dans les semaines qui viennent, et Sanofi continue à travailler sur certains vaccins, premier point. Deuxième point, Sanofi a annoncé il y a quelques semaines un investissement important à Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, oui. Sur de la recherche et développement. Il faut se garder des raccourcis. Moi, je n'imagine pas un seul instant qu'un major mondial de la santé comme Sanofi, d'une certaine manière, se tire une balle dans le pied en renonçant à sa recherche-développement.
Mais vous avez vu cette petite start-up nantaise qui a développé un vaccin? Ils étaient prêts à produire 80 millions de vaccins à partir du mois d'octobre. Ils ont cogné à la porte de l'État pour demander des financements, et puis finalement, ça a mis tellement de temps qu'ils sont allés demander des financements à la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de financement public et privé pour la recherche, notamment en France, Patrick Martin ?
Il y a probablement un problème de financement, mais je crois surtout que c'est le propre de ces grosses organisations, et l'État en est l'exemple caricatural, de se sédimenter, de perdre en créativité, de perdre en agilité, et c'est tout l'enjeu pour les grands groupes, et Dieu sait si on a de magnifiques grands groupes en France, de se réorganiser en interne pour encourager l'intrapreneuriat, comme on dit.
Et ça, c'est un échec du président Macron, selon vous, qui avait fait toute sa campagne sur la rationalité du fonctionnement de l'État français, sortir de ce côté ultra-administratif, ultra-administré
Écoutez, le président de la République avait lancé une mission CAP 2022, dont l'objectif était précisément de revisiter le fonctionnement de l'État. Il faut bien dire les choses, à ce jour, cette mission n'a pas produit grand-chose. Et on a la démonstration depuis le printemps dernier que les lourdeurs de l'État, les procédures, les chasses gardées, les égaux font qu'il y a des dysfonctionnements. Et il faudra, le jour venu, le plus vite sera le mieux, s'interroger sur l'efficacité de la sphère publique.
C'est un sujet absolument passionnant et capital. Merci infiniment pour votre sincérité, Patrick Martin, d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Europe Soir. Merci.